Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronicle, un épisode qui sera aussi rapide que son ombre. Merci beaucoup d'avoir écouté, bonne fin de journée.
Oui.
Plus sérieusement, aujourd'hui avec moi Margot, salut Margot.
Salut.
Et Cyril, salut Cyril.
Salut.
Du coup, vous l'avez compris, on va parler d'un petit podcast assez français, avec aujourd'hui un 100% Lucky Luke. On va revenir sur les deux titres dits un peu plus classiques de Lucky Luke à Paris et Lucky Luke, un cow-boy dans le coton. Et on passera sur des titres, sur la revisite du titre Lucky Luke par Mathieu Bonhomme, si je ne me trompe pas de prénom. À savoir L'homme qui tue à Lucky Luke et Lucky Luke Wanted. Donc, pour ce faire, on va démarrer avec les deux classiques, à savoir Un cow-boy à Paris, que nous avons lu tous les trois. Est-ce que l'un de vous veut faire un petit résumé rapide?
Je pense que c'est plus frais dans la tête de Cyril.
Bon, bah dans ce cas-là, c'est moi qui m'y colle. Donc, cette histoire d'un cow-boy à Paris par Jules et HD, c'est malgré ce que laisse entendre le titre, enfin, le titre, de toute façon, dit ce qu'il en est. Donc, Lucky Luke, en fait, sur le territoire des États-Unis, escorte Bartholdi, le créateur de la Statue de la Liberté, dans sa tournée américaine, afin de lever des fonds pour construire la dite statue. Bon, voilà, après quelques petites aventures et mésaventures, il accompagne Bartholdi à Paris pour escorter la livraison de la statue aux États-Unis et la protéger contre les manigances d'un directeur de pénitencier qui veut construire justement une prison sur Liberty Island. Voilà, grosso modo, le scénario tient dans un timbre-poste.
Un scénario classique de Lucky Luke, j'ai envie de te dire.
Ouais, tout à fait. C'est vraiment du Lucky Luke classique comme on a pu le voir ces dernières années. C'est un titre de 2018. Voilà, on est un peu loin quand même maintenant, mais c'est l'avant-dernier titre de la série classique qui est sorti. Voilà, c'est un Lucky Luke de la série classique avec un public, je dirais, plutôt jeunesse.
Mais du coup, on va revenir sur toi juste après, mais Margot, toi, tu l'as lu celui-là? Tu n'as pas fait tes devoirs, tu n'as pas lu Le Cowboy dans le coton. Du coup,
non, j'avais pas compris que c'était aussi sur les anciens.
Du coup, tu vas pouvoir nous donner ton avis sur Le Cowboy à Paris, du moins ton souvenir de cette lecture. Toi, t'en avais pensé quoi?
Honnêtement, je me souviens que c'était un des premiers Lucky Luke que je lisais depuis très longtemps. Donc, bon, revisite, ok, mais qui est quand même plus proche des anciens que ceux de Mathieu Bonhomme. Et j'avais trouvé ça plutôt drôle et efficace, mais effectivement très jeunesse et plutôt facile. Mais après, par exemple, je trouvais que c'était une revisite sympa, quoi. C'était pas non plus tout pourri. Il y avait des trucs un peu faciles, mais ça fonctionnait.
Ok. Globalement, moi, je vais avoir un peu le même avis. J'ai pas accroché, en fait, surtout sur la narration très classique. Et alors, peut-être parce que j'ai lu énormément de Lucky Luke quand j'étais plus jeune. J'ai trouvé que les blagues et un petit peu le schéma de l'aventure étaient super répétitifs et que du coup, ça tombait à l'eau assez vite. C'était très vite désamorcé. Et du coup, j'ai pas du tout été embarqué dans l'aventure. Je trouve que l'écriture du Lucky Luke et de Jolly Jumper, qui fonctionne en duo sur tous les titres, je l'ai pas retrouvé là, dans celui-là. Et après, toujours pareil, ça m'a un peu gêné. Alors, je suis pas spécialiste historien ou autre, mais j'ai trouvé que c'était un peu cliché et un peu facile de transposer cette histoire quoi au temps de Lucky Luke, avec tout ce que ça comporte derrière, un peu les anachronies et tout. Donc ça m'a pas laissé un souvenir terrible quoi. Et enfin, on va parler de l'autre ensuite, un cow-boy dans le coton. Mais voilà, pas la folie pour celui-là. Je sais pas, toi, ton avis, Cyril, après nous avoir fait ce superbe petit résumé.
Ouais, ben mon avis rejoint le vôtre. Moi, déjà, j'ai eu peur quand j'ai vu le nom du scénariste. J'ai vu Jules, je me suis dit, merde, putain, c'est le chanteur rappeur Massacre d'Oreilles qui a écrit le scénario. On va être avec La plus belle là des chicas. Mais non, pas du tout, c'est pas le même. Voilà, j'ai fait mes devoirs aussi, je me suis renseigné, c'est pour Julien. Donc voilà, le scénario est très plat. Moi, j'attendais une mise en parallèle en fait des sociétés américaines et françaises à la fin du 19e siècle, donc période de la création de la Statue de la Liberté. Et cette mise en parallèle ou cette différence qu'il peut y avoir entre les deux sociétés n'apparaît pas dans le scénario. En fait, comme tu disais, c'est un scénario très classique, très plat. Lucky Luke accompagne Bartholdi, va à Paris, il est malade dans le bateau. À Paris, il rencontre, je crois, Pasteur. Enfin bon, voilà, ils essaient de mettre quelques petits personnages historiques dans l'histoire. Ça peut marcher dans certaines BD. Là, ça marche pas. Ça n'apporte absolument rien à l'histoire. Lucky Luke, dans cette histoire-là, il tire vite, il dit ouais. Voilà, il est gentil. Le méchant directeur de prison est puni à la fin. Il y a, voilà, comme toi, Fabien, je suis un lecteur de Lucky Luke de longue date. Je lis Lucky Luke en essayant d'être parti sur un ordre chronologique. J'ai lu les nouveautés une fois que Maurice est mort, que Lucky Luke a été repris, j'ai lu ce qui a été fait derrière. J'ai trouvé que ce titre est vraiment très plat. Surtout, c'est un titre français qui est écrit par un Français et qui fait venir Lucky Luke à Paris. On aurait pu s'entendre dans un truc de vraiment bien. Et ouais, ça prend pas.
Oui, je suis assez d'accord. Du coup, je pense qu'on va pas passer trop de temps là-dessus parce que en soi, ben voilà, vous y allez. Enfin, vous savez pourquoi vous y allez. Vous retrouverez ce que vous attendez. Moi, pour celui-là, j'y ai trouvé même moins que ce que j'attendais. Donc, ça a été plutôt une grosse déception. Je pense que de votre côté, c'est la même chose au final. On a du coup juste après ce numéro qui est sorti en 2020, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, fin 2020.
Fin 2020, le Lucky Luke, un cowboy dans le coton, où je vais faire le résumé très rapide. Lucky Luke va se retrouver propriétaire d'un... Comment on appelle ça ?
Une plantation.
Ouais, voilà, d'une plantation, j'allais dire d'une cotonnerie. N'importe quoi. D'une plantation de coton à la Nouvelle-Orléans. Et il va se retrouver évidemment confronté à tout ce qui fait la plantation dans son histoire, et à cette époque-là, c'est l'esclavage, c'est tout ce qui est le racisme, c'est tous ces sujets-là dont Lucky Luke va se faire passer va se retrouver choqué en fait, et va devoir gérer un petit peu sa plantation et son personnel, et les Dalton, et... un petit peu le festival de personnages des Lucky Luke classiques. On va avoir droit à un équivalent du Ku Klux Klan. Enfin, moi, j'ai très sincèrement... ça m'a saoulé. C'est vraiment... tu vois, c'est tous les sujets qui sont intéressants d'aborder, qu'on a mis là-dedans, et qu'on t'a mis... Et qu'on te le chausse à grands coups de botte dans les dents, et on te dit, t'as vu, là, Lucky Luke, il trouve que c'est pas cool, le racisme, alors... hop, on te met des gros coups de chaussures pour te dire, regarde, là, ici, c'est du racisme, là, tu vois, là, comme ça, c'est pas bien.
Mais c'est pour les enfants.
Oui, mais, enfin, je sais pas, il y a des références où, est-ce qu'on était vraiment obligé, enfin, vas-y, je te laisse ton avis, parce que cet album m'a vraiment très, très énervé.
Oui, je vois ça, t'es énervé, t'es... Non, moi, en ce qui me concerne, écoute, c'est vrai que faire intervenir Lucky Luke dans un contexte raciste et ségrégationniste du sud des États-Unis juste après l'abolition de l'esclavage, c'est un sujet qui est très coton.
Très joli jeu de mots.
Voilà, merci, j'ai travaillé quand même.
Je pense que je vais te mettre des petites cymbales.
Voilà. Et non, voilà, pour le public cible de la série classique Lucky Luke, qui est quand même orientée jeunesse avec une double lecture qu'on peut attendre pour les adultes, je trouve que c'est pas trop mal fait. Enfin voilà, il faut pas non plus tirer sur l'ambulance, plus vite que son nom d'ailleurs, mais je trouve que le sujet arrive à avoir quand même un bon équilibre entre le sérieux, c'est-à-dire expliquer ce qu'était le racisme, le ségrégationnisme aux États-Unis à cette époque-là, mais également avec toujours les blagues de Lucky Luke, les Dalton, Joe qui s'énerve contre Lucky Luke, etc. Pour moi, il y a un bon équilibre. L'utilisation du Ku Klux Klan, c'est le méchant planteur de coton blanc qui veut tuer tout le monde et qui en a appris Lucky Luke parce qu'il n'est pas raciste. C'est des grosses ficelles, c'est, comme tu dis, c'est balancé à coups de botte dans les dents, attention aux éperons, mais c'est, voilà, ça fait quand même le job, l'histoire se laisse lire. J'ai surtout, moi, apprécié le graphisme de cette histoire, parce qu'on se retrouve par rapport au Lucky Luke classique. Déjà, il y a plusieurs références à l'évolution du personnage de Lucky Luke, qu'on voit dans certaines cases, mais également le graphisme évolue au cours de l'album et devient un petit peu plus sombre à un certain moment quand il y a l'espèce d'une tornade, je crois que c'est qui intervient. C'est ça. Et voilà, le graphisme est plus sombre, le graphisme est moins caricatural. On est à la jonction, je dirais, à ce moment-là, entre ce que fait entre la série classique de Lucky Luke et ce que fait Mathieu Bonhomme dans ses itérations. Donc voilà, moi j'entendais pas grand-chose de ce numéro, enfin de ce tome, parce que ouais, justement, comme tu disais, ouais, Lucky Luke, il va s'en prendre à l'esclavagisme et au racisme. Bon, oui, effectivement, on le prend dans les dents facilement. Mais la lecture, c'est pas mal. Franchement, voilà, moi j'en suis satisfait. Je trouve que c'est pas un mauvais Lucky Luke.
Moi, j'avoue que j'avais feuilleté, j'étais tombée sur 2-3 pages avec des gags vraiment pourris et ça m'avait énervé. J'avais dit que je le lirais pas. Parce que j'avais pas un souvenir mémorable de celui à Paris. Ça m'avait. Voilà. Et donc, je m'étais dit que j'arrêtais les frais ici.
Ouais, je te dis, voilà. Alors, je suis assez d'accord avec toi. Graphiquement, ça tient la route. Hein. On voit les différents styles et l'espèce de passage un peu sombre, comme tu dis, avec la tornade. C'est solide hein, graphiquement. Il n'y a pas de souci là-dessus. On retrouve toute l'ambiance du Lucky Luke. Ça m'a d'ailleurs étonné parce que tous les Lucky Luke que j'ai lus sont assez classiques dans le sens où on est toujours dans le Far West, les prisons, les saloons, etc. Et là, du coup, il y a quand même tu vois, un changement d'atmosphère avec cette grande maison, la plantation. C'est assez coloré, il y a un peu les marécages de la Nouvelle-Orléans et tout ça. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, l'histoire, j'ai trouvé ça poussif, j'ai trouvé ça... Mais en fait, c'est tout ce que je déteste, tu vois. Si je dois faire lire un livre qui va traiter du racisme et qui va être beau, ben, je vais prendre Blanc autour, tu vois, de Stéphane Fert, qui touche pas forcément les mêmes sujets, mais le sujet principal du racisme, il est là. Bon, dans Blanc autour, il y a tout un sujet autour de la place de la femme et tout ça. Mais si on parle purement de la partie racisme, je vais plutôt conseiller ça, qui est beaucoup plus intelligent et que je peux donner à... Enfin, que moi, je donnerais même au même public qu'un Lucky Luke et que j'aurais pas l'impression de les voler, quoi. Mais celui-là de Lucky Luke, franchement, mais... Et les références, et puis Oprah Winfrey, et puis Obama... Ah bah, est-ce que vraiment... Putain, ça a aucun sens, quoi.
Ah non, mais ça a aucun sens, mais ça reste dans l'esprit Lucky Luke où il y a toujours eu ce petit parallèle avec les personnages actuels. Dans les anciens Lucky Luke par Maurice, ça y existait aussi. Je dirais qu'ils essaient maladroitement de reprendre les ficelles qu'utilisait Maurice. Ça a marché peut-être il y a 40 ans ou 50. Mais à l'heure actuelle, voilà, c'est un peu plus compliqué. Moi, je veux juste ajouter que ce que j'ai apprécié, c'est de faire intervenir le Marshall Bass Reeves.
C'était le second point que moi, j'ai beaucoup aimé aussi.
Voilà, c'est le premier Marshall noir des États-Unis.
Marshall adjoint,
tout à fait. Merci de me reprendre. Et c'est en plus un personnage que moi j'avais déjà vu dans d'autres BD, dans des films, etc.
Il y a une BD qui s'appelle Marshall Bass d'ailleurs, non?
Ouais, il me semble aussi. Ouais. Et c'est vrai que le voir intervenir dans Lucky Luke, là encore, on reprend ce qui se faisait avant avec des personnages réels qui ont existé, les Dalton, Calamity Jane, je ne sais plus qui c'est qu'il y a d'autres. Mais voilà, sur Lucky Luke, ils ont toujours pris leur inspiration sur certains personnages dans des personnages ayant existé. Et là, justement, dans cette histoire d'un cow-boy dans le coton, faire intervenir ce premier Marshall adjoint Black dans l'histoire. Et puis, on apprend qu'en plus, il y a une relation avec Lucky Luke, une relation où il était un petit peu son mentor auparavant. Voilà, moi, j'ai trouvé ça sympa. C'est par rapport à un cow-boy blanc des États-Unis à cette époque-là, qui était tout raciste. Ça explique pourquoi aussi Lucky Luke n'est pas raciste. Ça nous dit aussi... Enfin, voilà, je ne sais pas si c'est là que je l'ai vu, mais... Faut savoir aussi que à l'époque, les cow-boys avec un salaire de misère, ben, c'était pour plus de la moitié, c'était des blacks, c'était pas des blancs. Et ça,
ouais, il y a un petit encart à la fin, et c'est 25% des cow-boys qui étaient 25, des cow-boys ouais. Noirs, et pour un salaire moyen de 1$ à peu près.
Ouais, c'est ça. Enfin voilà, donc ça remet un peu les choses, et puis ça, ce petit côté informatif, moi que j'ai bien aimé à la fin, et puis qui reprend ce qui se faisait avant. Bon voilà.
Non, j'ai bien aimé. Moi, ce qui m'a gêné vraiment, tu vois, c'est que quitte à ce que tu reprennes les gimmicks du Lucky Luke classique, mais on est en 2000, donc là on est en 2020, avant on était en 2018, mêlé au goût du jour, ça ne me gêne pas que tu reprennes le concept, modernise-les et fais-les vivre au travers son temps. Parce que là du coup je trouve que, tu vois, prendre Calamity Jane ou Billy the Kid, dans Lucky Luke, ben ouais, ça colle, c'est l'univers. Prendre Oprah Winfrey ou Barack Obama, même si c'est qu'un clin d'œil, eh ben, je pense que tu pouvais faire un clin d'œil à des personnalités plus intéressantes que ça. Et parce que, viens pas me dire, le clin d'œil à Barack Obama ou Oprah Winfrey, un gamin de 8 ans à qui tu l'offres, il sait pas qui c'est.
Ah bon, Oprah Winfrey, non, Barack Obama peut-être, mais Oprah Winfrey, non. Et puis, je pense qu'ils n'avaient pas le... Ils n'ont pas choisi... Enfin, voilà, sur le coup, là, sur ces références, le scénariste n'a pas choisi les bonnes personnes.
Ouais, c'est ça, c'est dommage. Du coup, voilà, moi, c'est juste que j'aimerais, voilà, ben, quitte à ce que tu reprennes Lucky Luke, que tu fasses une revisite, ben, comme Mathieu Bonhomme, hein, au final...
Mais c'est ça.
Qui est Lucky Luke, sans l'être.
En fait, ouais, le Mathieu Bonhomme, bon, on va en parler après, mais... Le Lucky Luke qui est dans un cowboy dans le coton voudrait se ressembler à celui de Mathieu Bonhomme. D'ailleurs, il est sorti entre les deux tomes, hein, de L'homme qui tue Lucky Luke et Wanted Lucky Luke. Je pense que ça, les volumes de Mathieu Bonhomme, je pense, vont de toute façon influencer la série Lucky Luke classique parce qu'on est, à un autre niveau.
Complètement. Mais du coup, je te propose qu'on fasse la transition, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur ces deux premiers tomes classiques qui ne nous ont que moyennement emballés, on va dire.
Moi, non.
Je pense que Margot non plus, étant donné qu'elle n'a pas fait ses devoirs et que
tu m'as pas dit qu'il fallait. Il dit la moitié des choses. Hein. Il m'a pas dit qu'il fallait lire là. Il m'avait dit les deux de Mathieu Bonhomme.
Oui, mais c'est moi qui ai rajouté les autres.
Ouais, il m'a pas communiqué les infos.
On va pas se mentir, pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter, Margot râle encore.
Et continue.
Oui, c'est vrai.
Du coup, la transition est toute trouvée. On va attaquer les deux Lucky Luke de Mathieu Bonhomme. On va démarrer chronologiquement par L'homme qui tue Lucky Luke. Et je vais laisser Margot nous en faire un petit résumé.
Alors, dans celui-ci, Lucky Luke débarque, je crois que c'est Froggy Town. C'est ça, hein ?
Froggy Town.
Froggy Town, merci, avec un très bel accent. Débarque dans une petite ville qui est gouvernée par une fratrie qui est un peu autoritaire. Et c'est un peu l'époque des, l'époque des mines d'or et tout ça. Et en fait, il va aider la ville à retrouver qui a dérobé l'or à des mineurs. Et il va mener l'enquête. Donc, ça va être... En gros, c'est principalement ça. Sauf que, je crois que c'est tout.
Ah ben globalement, c'est ça. Ouais. Soit je te laisse nous donner ton avis ici, soit on donne la parole à Cyril et on reviendra sur toi en conclusion de ce titre.
Allez,
comme
Cyril,
vous préférez.
Alors, vous prenez des grands risques à me donner la parole en premier, parce que vous n'aurez plus de place après pour parler. Hein.
Je m'en fiche, j'ai le bouton mute.
Ah, d'accord. Moi, ce titre-là, je l'ai lu en 2016 quand il est sorti. C'est le premier tome en fait, qui est sorti en dehors de la série classique de chez Lucky Luke. Il y en a eu d'autres, il y a eu Jolly Jumper ne répond plus. D'ailleurs, j'en avais fait une petite chronique sur le blog à l'époque, mais c'est un registre plus humoristique, plus décalé. En ce qui concerne L'homme qui tue Lucky Luke, moi, le premier truc qui m'a frappé, c'est que c'est Lucky Comics, donc Dargo, qui a sorti ce tome hors série. Et on est vraiment chez l'éditeur historique de Lucky Luke. C'était pour les 70 ans du personnage. Et vraiment, ça se démarque complètement de la série principale qui est plutôt orientée jeunesse et humoristique. Là, on est vraiment sur un titre pour adultes. Mathieu Bonhomme donne à cette série un véritable air de western, et que c'est un western spaghetti, c'est pas le western des années 50 avec John Wayne et les cowboys qui chantent, c'est vraiment le genre western spaghetti un peu crade. Lucky Luke arrive dans la ville avec son poncho, enfin, on dirait Clint Eastwood dans son rôle de l'homme sans nom, et il manque plus que la musique à l'harmonica, et on est dedans, quoi. Autre changement, moi je trouve que la ville qui a été utilisée, c'est Froggy Town. Dans la plupart des westerns, on a des villes arides où il y a des petits buissons qui passent sur le bord de la route. Là, c'est une ville où il flotte tout le temps, il y a des grenouilles partout. Enfin voilà, on n'est pas dans l'ouest classique qu'on a l'habitude de voir. Et d'ailleurs, la petite remarque que j'ai vue, c'est que dans le nom de Froggy Town, est-ce que ce ne serait pas aussi un petit clin d'œil aux origines franco-belges de Lucky Luke, vu que les Américains nous appellent avec affection les Froggy?
Ouais.
Et ça, c'est la première référence. Il y a d'autres références au western classique, mais également à l'histoire de l'Ouest. La plus évidente, c'est Doc Wednesday, qui est une référence à Doc Holliday. Et d'ailleurs, il y a également une référence à quand ils sont flingués, je ne sais plus. Enfin, voilà, Mathieu Bonhomme a vraiment fait ses devoirs. Il nous donne un contexte très fouillé et c'est appréciable. C'est appréciable parce qu'on en a quelque chose de très construit, de très travaillé. Et puis moi, surtout, ce qu'on sait, c'est qu'on apprend comment Lucky Luke arrête de fumer. C'est aussi un des gimmicks du titre.
Ça m'a fait beaucoup... Ouais, j'ai beaucoup aimé ce truc.
Ouais, en fait, voilà, c'est, on le voit à la recherche de tabac en permanence. Brain Pie dans la boue. Et aussi, ça
c'est
explique,
un vrai,
ça explique des trucs.
C'est au centre de ses combats, quand même. Enfin, de ses combats. Je sais pas si c'est le mot combat, mais c'est vraiment au centre, des fois, de ses duels.
Ah oui, 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 non, il est vraiment... C'est vraiment l'accro à la clope qui a besoin d'arrêter, enfin qui a pas le choix parce qu'il y a pas de tabac, donc il va devoir arrêter, mais il en devient obsessionnel.
Moi, je suis assez d'accord. Sincèrement, je suis allé lire ça. Donc, comme tu le disais, c'était sorti juste après Un Cowboy à Paris, et j'y suis allé, mais un petit peu, tu vois, en freinant des quatre fers pour rester dans le thème.
C'est sorti avant Un Cowboy à Paris.
Ouais, c'est sorti avant.
C'est sorti avant ?
Ah ouais. Oui, c'est sorti il y a 2016, c'est ça ?
Il y a 5 ans déjà.
Bon, alors du coup, je l'ai lu après Un Cowboy à Paris. Mais ça revient au même, parce que... Enfin non, ça revient pas au même, mais mon raisonnement revient au même. C'est que j'avais été déçu de Un Cowboy à Paris. Du coup, ce Lucky Luke là, je l'avais jamais lu. J'ai été le lire, mais avec un peu d'appréhension de ma lecture précédente. Et en fait, j'ai beaucoup aimé, parce que comme je le disais, on a un personnage que tout le monde connaît, mais dans un récit vachement mature. Enfin, comparé au Lucky Luke classique, on a vraiment une histoire dense, avec des personnages secondaires qui ont une vraie personnalité, qui sont pas là juste pour mettre en avant Lucky Luke, qui font vraiment avancer le récit. Graphiquement, c'est complètement fou. Pour du Lucky Luke, on a vraiment une ambiance de western avec... tout ce qu'on aime, enfin moi tout ce que j'aime dans Lucky Luke, tout ce côté un peu dynamique, moi j'ai toujours vu Lucky Luke comme un cow-boy à ressort un peu, tu vois, qui est assez dynamique, qui saute partout, qui... Voilà, je l'ai toujours vu comme un cow-boy dynamique. Du coup là, je trouve que le rendu de ce dynamisme est super bien fait, et que les jeux des couleurs font en partie que ça ressort beaucoup, tu vois, de rouge, de jaune... tous ces jeux de couleurs pour mettre en avant tel ou tel personnage, parfois des sensations aussi que Lucky Luke ressent, et les émotions qu'il fait passer au travers. Et moi, j'ai trouvé ça super intelligent, super bien construit. Et ouais, clairement, c'était une bonne surprise. Du coup, j'étais assez content de savoir qu'il y en avait un qui sortait cette année. Et je l'ai lu quasiment tout de suite après sa sortie, quoi. Donc vraiment, très très bonne surprise de ce Lucky Luke. Et même, j'ai envie de te dire, c'est un de mes Lucky Luke. Voilà, maintenant avec le recul et en ayant quand même un passif de lecteur de Lucky Luke un peu important, je pense que c'est un des Lucky Luke que je recommanderais facilement à quelqu'un qui ne lit pas du Lucky Luke et qui veut connaître le personnage. Plutôt que de se taper tous les Billy the Kid, Calamity Jane, le Far West, je sais plus quoi, ben, je lui recommanderais de lire ces deux bouquins de Mathieu Bonhomme, parce que la revisite marche super bien. C'est ce que je disais tout à l'heure, au final, c'est le Lucky Luke, avec tout ce qui fait l'essence du Lucky Luke, modernisé, tout en respectant la chronologie, je m'entends, la période à laquelle le personnage évolue. Et du coup, pour ça, moi, je trouve que c'est très fort, et vraiment, bravo. Je trouve ça vraiment très chouette. Margot, tu peux nous donner ton avis après ce super résumé que tu nous as fait.
C'était, je sens un petit peu d'ironie quand même.
Mais pas du tout.
Ouais, bah moi je vous rejoins totalement. Très mature. Moi j'ai trouvé ça fou qu'il fasse la colo, le dessin et le scénario, parce que les trois sont impeccables. C'est hyper propre. C'est pour le coup là la relation pareil, Lucky Luke, Jolly Jumper, elle est vraiment bien aussi dans les deux tomes. Mais bon. Je trouvais ça vraiment chouette, et puis ouais, il est à la fois charismatique, à la fois les autres persos sont pas bâclés et ça fait pas un truc où on prend le lecteur pour un débile. Enfin, moi j'aime beaucoup ce genre de récit, et ouais, j'ai eu l'impression de lire un vrai western, pas un truc essence. Je sais que Lucky Luke, il est pas censé être que c'est une revisite, il est pas censé être méga sérieux, enfin comment dire, ça, c'est censé être aussi du divertissement, mais là moi je trouve ça bien d'avoir un Lucky Luke un peu plus sombre, un peu plus mature. Enfin, franchement, et puis le dessin, ouais, il est hyper propre, la couleur, elle est vraiment nickel. Enfin, j'ai beaucoup aimé. C'est pareil, moi, si je lis un western qui, avec l'impression de, et puis, bon, je pense que moi, je passe à côté de références, c'est ça mon petit problème, mais c'est que je suis pas une lectrice de Lucky Luke comme vous, donc du coup, je pense qu'il y a des refs que j'ai pas eu, quoi. Mais ouais,
y a le personnage de Lorelex, même si tu n'as pas la référence, tu vois que c'est un personnage qui est intervenu avant.
Ouais,
en fait, c'est
ça,
une danseuse de French Cancan, enfin de cabaret, qui est redondante dans les aventures de Lucky Luke. Tu as plusieurs petits trucs comme ça qui reviennent.
Ouais, et je trouve que c'est pas gênant à la lecture, par exemple, de pas les avoir. Et j'aime bien quand c'est comme ça dans une revisite.
Ouais, mais c'est ce que j'allais te dire, c'est pas gênant à la lecture, même si tu connais pas du tout l'univers de Lucky Luke, tu as déjà entendu parler du personnage, donc tu sais que c'est l'homme qui tire plus vite que son ombre. Donc voilà, c'est, c'est
même
tout ce qu'il y a à
savoir. L'affiche, je la connaissais pas vraiment, mais ça se comprend vraiment qu'ils ont un passif, quoi.
Ouais, tout
donc,
à fait.
Je vous rejoins totalement.
Ouais, moi vas-y.
Vas-y, excuse-moi, vas-y.
Non, moi je voudrais juste rajouter un truc, c'est que voilà, j'en appelle à nos cinéastes. Plutôt que de nous faire des films sur Lucky Luke avec Terence Hill ou Jean Dujardin, qui sont des trucs complètement pourris, faites-nous...
Attention à ce que tu dis sur Terence Hill.
Ouais, non, mais Terence Hill, j'adore, mais le Lucky Luke avec Terence Hill, je suis désolé, mais bon, ben, voilà, quoi, c'est Trinita met un chapeau blanc. Voilà, faites-nous un film inspiré de cette BD. Faites-nous un Lucky Luke inspiré de cette BD, même de l'autre, d'ailleurs, des deux BD de Mathieu Bonhomme, et avec un vrai Lucky Luke, un vrai truc, et là, on aura quelque chose de très très bien.
Mais on ne sait plus faire les westerns comme à l'époque.
Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire que c'est un peu risqué aujourd'hui de dire ça.
Non, parce qu'on a réussi à faire des westerns il n'y a encore pas très longtemps. Tu prends Danse avec les loups. Ouais, tout dépend de l'âge de la personne. Mais tu prends des westerns comme ça.
Moi, je me souviens, tu prends Le Bon, la Brute et le Truand. Tu prends Le Train Siffleur.
50 ans, quoi.
Mais alors, moi, je n'ai pas 50 ans et j'adore ces films-là. D'accord.
Oui, mais moi aussi, j'adore ces films-là.
Moi, je n'ai pas 50 ans et je ne les ai jamais vus.
Le Bon, la Brute et le Truand, il faut absolument le voir.
Oui, je le regarderai.
Il dure 3 heures, mais il faut le voir.
Ah non, 3 heures.
Non, mais ce qu'avait fait Clint Eastwood avec Impitoyable, enfin voilà, on arrive quand même à faire des westerns, entre guillemets, modernes, qui claquent un peu. Là, il y a moyen, plutôt, enfin voilà, Lucky Luke, ça a toujours été le grand problème d'adapter Lucky Luke au cinéma. Je dirais à la limite que le seul Lucky Luke qui est sympa, c'est le film Les Dalton avec, comment ils s'appellent les deux guignols là ?
Eric et Ramsey.
Et avec Eric et Ramsey, enfin je veux dire, c'est le seul truc où moi, ça m'a fait marrer parce que c'est Eric et Ramsey, mais je suis désolé, le Lucky Luke avec Terence Hill, bon, c'est un Trinita.
Oui, mais c'est un truc qui était de quand ?
Enfin, ouais, mais ça, début des années 90, je crois. Mais tu prends le Lucky Luke avec Jean Dujardin, c'est pareil, c'est censé être une adaptation fidèle et tout ça. Bah non, enfin... Hein, voilà.
Bon, après, voilà, moi je pense qu'on a de la chance parce que si tu fais le point, ça fait que allez, deux films Lucky Luke plus un, les Dalton, si tu le comptes comme un film Lucky Luke, compte le nombre de films Astérix et le nombre de bons films Astérix. Voilà.
Les bons films Astérix.
Rien de plus à dire.
Ah, ils vont en faire un nouveau, on va voir.
Ouais, regarde le casting et tu vas vite comprendre.
J'ai pas encore vu le casting, je sais pas qui va jouer Astérix.
Il est sorti dedans, mais. Voilà, bref.
Je regarderai.
On vous prend un podcast Astérix et vous allez voir ce que c'est de mettre du sel sur une licence.
Ah ouais.
Moi, je voulais rajouter juste un point sur. Je l'ai perdu, mon point, donc je vais le couper au montage, ça, parce que je sais plus ce que j'allais dire.
Un point sur la colorisation qui a tué, a tombé.
Mmh. Non, ça, c'est.
Putain, non, ça, on s'en fout, j'adore.
Oh putain, bon mais j'ai perdu le fil, c'est pas grave.
Après, pour revenir sur la colorisation, moi je trouve que Mathieu Bonhomme effectivement fait le scénario, le dessin, la couleur. Le scénario est top, le dessin est d'enfer, mais même la couleur, il arrive quand même à sortir quelque chose de
super beau. Ce qui est fou, c'est quand même que là, tu vois, sur Wanted, là, il y a eu un noir et blanc. Donc je sais pas s'il y avait eu pareil pour L'Homme qui tue à Lucky Luke, j'étais pas encore à la librairie quand c'est sorti.
Oui, je pense que oui, ils ont dû faire un noir et blanc aussi. De toute façon, quoi qu'il en soit, il y a un tirage de tête, donc le tirage de tête est en noir et blanc.
Voilà. Et franchement, même son noir et blanc, alors je sais qu'il y en a plein qui trouvent que le noir et blanc, ça n'a pas d'intérêt, mais même son noir et blanc, franchement, il est beau, quoi. Il est beau, on voit les aplats, ils sont bien faits, enfin tout... Donc j'ai envie de te dire, le mec, il gère même en noir et blanc, quoi.
Ah non, mais le mec, il gère tout court. Enfin, honnêtement, je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre, Mathieu Bonhomme.
Il a fait des BD. Alors, il a fait une BD historique sur Charlotte l'Impératrice. Il a fait, je crois, quelques BD. Historique, c'est un peu un mot un peu vilain, mais si je ne te dis pas de bêtises. Attends, je cherche un titre qui m'échappe. Charlotte l'Impératrice.
Bah,
il a fait Le Marquis d'Ananon, Le Voyage d'Esteban. En fait, c'est des BD un peu aventure historique.
D'accord.
Et il avait fait Messire Guillaume aussi, qui était avec. Comment il s'appelle Gwen de Bonneval. C'était un peu médiéval.
Tu nous as perdu là.
Pardon.
Mais de toute façon, il y a deux choses. La première, c'est que les gens qui ne trouvent pas d'intérêt au noir et blanc, c'est qu'ils ne savent pas apprécier le travail d'un dessinateur, puisque le dessinateur, de base, il pense son dessin en noir et blanc, quand même. Donc, il y a quand même des choses à voir sur un bouquin entier en noir et blanc. Enfin, je trouve que ça apporte un vrai plus. Alors, je ne dis pas que tous les bouquins doivent sortir en noir et blanc, mais il y en a certains. Enfin, là, pour Lucky Luke, ça marche parfaitement, tu vois. Il y a d'autres dessinateurs qui sortent des dessins en noir et blanc, enfin des titres en noir et blanc, où ça fonctionne vraiment très bien aussi. Et moi, la seconde chose, c'était que j'ai perdu tout à l'heure et qui m'est revenu là, c'est au niveau librairie en tant que tel. Est-ce que celui-là, il a plus d'attrait auprès du public que Lucky Luke classique, ou il a du mal à trouver son public?
Alors, j'étais pas en librairie pour
enfin,
l'homme qui a...
Celui-là, ceux de Mathieu Bonhomme, quoi, globalement.
Bah, c'est... T'as à la fois le même public, à la fois pas le même public. C'est que tu le vends... Enfin, moi, personnellement, je le vends pas autant qu'un Lucky Luke... Enfin, pseudo normal. Mais il a quand même vachement son public, et en fait, qui change un peu, parce que du coup, t'as des lecteurs qui... Un peu comme moi, qui aiment Lucky Luke, qui vont l'acheter, mais t'as des lecteurs aussi qui veulent juste un western, qui vont l'acheter. C'est pas... Je trouve ça plus large, en fait, le public, et à la fois, c'est moi, pour moi, c'est pas les mêmes ventes, donc c'est un peu...
Ouais, ça a quand même une autre aura que le Lucky Luke classique, en fait.
Ouais, mais en fait, honnêtement, moi, le Lucky Luke classique, pour te donner un exemple, ça a le même... Alors, c'est pas les mêmes quantités, mais ça a le même impact qu'un Astérix, tu vois. C'est des gens qui l'achètent par nostalgie, c'est un réflexe comme... Enfin, moi, j'appelle ça un réflexe de supermarché. C'est des gens, ils rentrent, ils voient le box, ils en prennent un, quoi. Ils se demandent même pas si c'est bien.
Ouais,
alors que celui de Mathieu Bonhomme, les gens s'arrêtent, regardent, tu vois, c'est plus comme quand tu vas acheter une BD en réfléchissant.
C'est pas le même format de bouquin aussi, peut-être.
Oui, c'est sûr.
Non, et puis après, enfin voilà, je rejoins Margot. Lucky Luke, c'est un peu effectivement un peu comme Astérix, un peu comme Tintin quand il y avait.
Ouais,
des,
c'est nostalgie.
Voilà. C'est soit la, et la nostalgie, mais c'est aussi c'est iconique. Enfin voilà, c'est un personnage que tout le monde connaît. C'est pas connu qu'en France. Donc forcément, un nouveau Lucky Luke, ça n'a pas le même impact qu'un nouvel Astérix, mais c'est quand même un petit peu le même processus.
Oui, c'est ça.
Donc c'est vraiment les personnes... Enfin, moi, pour moi, enfin, Lucky Luke a été créé en 46, je crois. Il y a eu René Goscinny qui a travaillé dessus, avec Maurice. Voilà, c'est sur le niveau nostalgique, sur le niveau sérieux, entre guillemets, de la BD... tu sais qu'il y a eu des grands noms dessus, tu sais que c'est une BD qui date depuis 70 ans. Enfin, il est presque aussi vieux que Batman, Lucky Luke. Hein. Donc voilà, tu te dis voilà, les gens l'achètent par habitude, puis après, tu as les collectionneurs, tu as des rééditions, et effectivement, c'est pas le réflexe pavlovien, mais on n'en est pas loin, quoi.
Oui, c'est ça.
On utilise des mots super quand même, je trouve.
Heureusement que pour les grands pavloviens, il y a eu. En 2021, et il y a quelques jours de ça, le Wanted Lucky Luke, donc l'équivalent grosso modo d'un tome 2 sous le joug de Mathieu Bonhomme. Dans ce tome 2, on va avoir Lucky Luke qui est, on va dire, recherché comme un gangster par les affichettes Wanted, là, d'où le titre, et qui va essayer de fuir ses chasseurs de primes, et qui va tomber sur un convoi qui se fait attaquer par les Indiens de trois sœurs, si je...
Oui,
c'est ça, trois sœurs. Qui sont aux prises donc avec les Indiens. Lucky Luke vient les aider. S'ensuit un petit échange comme quoi ce sont trois femmes fortes qui n'ont pas besoin d'aide. Et qui, en plus...
tu donneras ton avis subjectif après.
Ben non, mais c'est... C'est justement ces trois femmes fortes qui amènent la possibilité de se faire un petit peu de pognon en livrant Lucky Luke au Marshall. Mais Lucky Luke va se sortir de ce pas en proposant son aide pour l'escorte jusqu'à Lucky Town et va aider nos trois sœurs à convoyer leur bétail jusqu'à cette ville.
Lucky
comme d'habitude.
Town.
Pardon ?
Lucky Town, t'es sûr ?
Ouais, c'est pas Lucky Town ?
Je crois que c'est Liberty.
Ah oui, Liberty, pardon, autant pour moi.
Lucky Town, c'est le titre d'un autre Lucky Luke.
Oui, exact. Donc c'était pour Liberty, où ils vont faire le trajet ensemble et affronter divers dangers. Et globalement, c'est le pitch de ce tome. On va revenir en détail sur quelques petits points, comme on a fait auparavant. Margot, je t'ai entendu crier très fort pendant ma, mon petit résumé, à toi la parole.
Mais non, mais je vais crier très fort. Mais quand tu dis avec une voix un petit peu... Oui, trois femmes fortes, je sens ce que tu veux dire.
Tout de suite.
Non, mais après, je suis... Il était vraiment très... C'est un album que je mets... Franchement, ça m'a fait la même impression de lecture que L'homme qui tue a Lucky Luke dans la qualité. Il est tout aussi bien et tout aussi distrayant. Et les couleurs sont vraiment top. T'as un peu ce truc de... Alors, j'aurais dit couleur californienne, mais je sais pas si je suis pas la seule à me comprendre.
Je crois.
Bon, ça va. Mais après, c'est vrai que je pense que c'est ce que Fab a voulu sous-entendre et c'est pour ça que j'ai crié. Je te rejoins un peu. Je trouve, moi, ça m'a un peu, ça m'agace un peu, en fait, les BD qui sortent en ce moment où faut absolument foutre des femmes fortes, en fait. C'est, je comprends, mais en fait, moi, j'en ai marre qu'on se serve du féminisme comme d'un lobby pour vendre des trucs. Je pense que c'était pas l'intention de Mathieu Bonhomme du tout, hein. Mais, c'est vrai qu'il n'y avait pas ça dans le premier, et pourtant il était vraiment très bien. Pourquoi celui de 2021, il faut qu'on nous foute trois femmes fortes qui se disputent le baiser de Lucky Luke, enfin, honnêtement, ça m'a un peu agacé.
C'est un truc bizarre, parce que c'est trois femmes fortes, mais elles se disputent pour se taper Lucky Luke, enfin,
ouais, voilà,
pour conquérir le cœur de Lucky Luke.
Donc moi, c'est là où ça me gêne, tu vois.
Et c'est exactement dans ce sens-là que je disais trois femmes fortes, c'est que
mais oui.
Elles sont présentées comme trois sœurs indépendantes, capables de mener le bétail.
Elles se tirent dans les pieds.
Ouais, non, mais voilà, tu vois, en fait, c'est juste trois femmes qui vivent leur vie. Ça se serait arrêté à ça, ça m'aurait pas dérangé en soi que ce soit trois femmes indépendantes qui veulent réussir toutes seules, machin et tout. En fait, ce qui m'a gêné, c'est que t'as le double discours de trois femmes indépendantes fortes qui veulent se faire sauver par Lucky Luke et qui derrière ont cette espèce d'amourette pour décrocher un bisou où en fait elles vont un petit peu passer, pas pour des femmes niaises, tu vois, mais par moments un petit peu. Et du coup, ça, en fait, je trouve que ça fait un peu contre-discours par rapport aux personnalités des personnages. Et c'est vraiment le point noir de cet album, moi, qui m'a gêné. Pour tout le reste, j'ai apprécié ma lecture et tout, mais ce double discours, ça m'a un petit peu posé problème, en fait.
Bah, c'est surtout, moi, enfin, c'est le double discours là-dedans, mais c'est aussi... alors, effectivement, c'est trois femmes, peu importe, hein, qui mènent leur troupeau dans les plaines du Far West, etc., etc., qui s'en sortiraient plutôt bien sans Lucky Luke s'il n'y avait pas eu l'attaque des Indiens, mais qui, après, quand elles arrivent à Liberty... sortent, ou du moins font sortir leur plus belle robe. Il y en a une qui chante, une qui danse, et l'autre qui joue de la musique.
Ouais. Voilà, quoi, franchement, c'était vraiment problématique. Hein. C'était,
Après, ce que j'ai aimé dans le traitement de la femme dans Wanted de Lucky Luke, c'est qu'on voit bien que quand elles sont aux mains du gang de Malfra, on voit bien que c'est vraiment des salauds, qu'ils ont un comportement de salauds, et que si Lucky Luke n'intervient pas, ou du moins s'il n'y a pas un sauveur providentiel qui arrive, que ce soit Lucky Luke ou pas, enfin voilà, je ne dis pas qu'elles ne peuvent pas s'en sortir toutes seules, hein. Mais,
oui, mais
je crois que pour la première fois dans un Lucky Luke, on voit qu'elles vont être violées, quoi, enfin voilà, carrément.
Ouais.
C'est, pour moi, c'est une grande nouveauté, parce que ce n'est pas un truc dont on parle beaucoup dans les BD, que c'est le genre de choses qui peut arriver, qui pouvait arriver, qui arrive toujours. Et je trouve que voilà, par rapport au lecteur, ça augmente l'empathie du lecteur et puis aussi l'implication qu'il peut avoir avec ses personnages.
Ouais, mais comme tu dis au début, alors je te rejoins totalement. C'est vrai que c'est très bien, c'est vraiment suggéré. Elles se baladent toutes les trois au début, toutes seules, en mode on est trois femmes fortes. Et puis là, elles ont absolument besoin de Lucky Luke. Enfin, c'est moi, ouais, ça m'a un peu gênée qu'elle se retrouve à chanter, danser, robe, la suggestion du viol. Ouais, du coup, ça donne un ton plus mature. Mais ce qui est fou, c'est que je te dis, ça m'a fait le même effet que l'homme qui tue à Lucky Luke. Donc, je trouve que c'est un bon divertissement et la BD se tient très bien. Mais je sais pas pourquoi il y a ce truc de absolument foutre. Enfin, soyons honnêtes, c'est un sujet d'actualité, quoi. C'est pour traiter un peu du. Enfin, même si c'est peut-être pas son but, bah ouais, il parle de ça au moment où on entend parler beaucoup de féminisme. Donc bon, c'est pour moi, c'est utiliser un sujet d'actualité. Donc c'est un peu comme la ségrégation et tout, c'est des sujets d'actualité. Voilà, on les utilise pour des albums. Après, moi, si c'est fait de manière maladroite, je trouve qu'autant pas le faire, quoi.
Ouais.
Il pouvait faire un très bon western sans faire ça, quoi.
Après, je pense que le but du western était surtout de mettre en place. Enfin, voilà, ça se voit à la fin, hein, mais qu'on voit Lucky Luke est un cowboy solitaire, que même si les Jana sont jolies, elles sont mignonnes, elles peuvent l'attirer parce que c'est des femmes fortes, malgré tout, il reste le lantern cowboy qui chevauche vers le soleil couchant. Moi, la fin m'a fait de la peine, la blondinette. Hein.
Ouais, un peu, c'est vrai que c'était triste.
Elle pleure en voyant partir Lucky Luke.
Enfin, oui, c'est vrai que c'était touchant, ça.
Voilà, moi, elle m'a fait de la peine parce que des trois sœurs, c'était la moins... Enfin, voilà, celle qui correspondait le plus, ça aurait fait une belle copine pour Lucky Luke.
C'est vrai, mais non, il est solitaire.
Moi, ça m'a agacé. En fait, la femme a un peu gâché le feeling de la lecture, qui, pareil, hein, malgré... Voilà, je dis que c'est un point noir, le double discours avec ces personnages-là. Attention, j'ai quand même passé un super moment de lecture, parce que...
Mais pareil, oui.
C'est vraiment super bien écrit. Globalement, le rythme de la BD, le récit, graphiquement, c'est toujours les mêmes compliments que sur l'homme qui tue à Lucky Luke. Moi, le point noir qui m'a gêné, c'est ces trois personnages-là. Et la fin, en fait, m'a encore plus gêné. D'autant plus que c'est le personnage qui, dès le début, te dit clairement qu'elle n'a pas besoin de Lucky Luke, que... Le fait d'être trois sœurs, l'esprit de famille, blablabla, c'est plus fort que tout, mais qui derrière, elle lui fait un petit bisou vite fait pendant la BD, et ça y est, elle est tombée amoureuse.
Mais oui, mais l'amour, ça se commande pas.
Ouais, mais enfin... ça m'a vraiment gêné.
Moi j'aime bien.
Moi, c'est ce double discours qui m'a gêné. Par contre, clairement, je le disais tout à l'heure, pour faire découvrir Lucky Luke, je recommanderais clairement L'homme qui tue à Lucky Luke, parce que c'est, pour moi, c'est un des meilleurs Lucky Luke que j'ai lu. Celui-là est très bon aussi, mais je pense que, après, peut-être c'est nous qui avons plus l'habitude de lire un peu tous les types de BD qui sont peut-être un peu plus sensibles à ce discours-là. Du coup, je sais pas trop si... on a un peu le même retour des autres lecteurs, du fait que j'ai pas vu grand monde en parler, ou j'ai pas pu échanger avec beaucoup de monde qui l'avait lu. Du coup, je serais assez curieux d'avoir l'avis ou le retour de Mathieu Bonhomme, justement sur ce sujet-là, qui nous a marqué. On sait qu'il est assez respectueux de l'univers de Lucky Luke, donc c'est peut-être pas forcément le discours qu'il a voulu donner. Et on voit du coup aussi son amour pour le titre de Lucky Luke, à en voir toutes les petits clins d'œil à l'univers. C'est toi, Cyril, tout à l'heure, qui nous parlait de tout ça, qui avait relevé pas mal de petites anecdotes et de petits clins d'œil à ce que Mathieu Bonhomme fait par rapport à l'univers de Lucky Luke.
Oui, tout à fait. En fait, un peu comme Mathieu Bonhomme, j'ai fait mes devoirs. Et c'est vrai qu'il est super. En fait, il est super respectueux de l'univers. Il a travaillé son personnage, il a travaillé l'univers dans lequel il travaille. Enfin, dans lequel il travaille, ouais, forcément. Et tout au long du volume, il nous donne des petits détails, des petites références. Et moi, j'ai trouvé ça super, super pointu d'ailleurs, même sur certains trucs. Bon, on a d'abord le cousin Dalton, là, celui qui manigance toute la. Tout ouais, ce qui se passe contre Lucky Luke.
L'antagoniste de Lucky Luke, en fait.
Ouais, voilà. Et en fait, c'est un cousin Dalton dont on n'avait jamais entendu parler, et qui, en référence à sa famille, dont Joe, Jack, William et Avril, Emma Dalton, on ne va pas l'oublier non plus, avec son chat, mais qui, pour se faire accepter par la famille Dalton, fait ce faux avis de recherche, voilà, on spoil un peu, mais ce faux avis de recherche sur Lucky Luke, de façon à ce que tout le monde essaie de l'attraper et d'en faire un bandit, et pour lui, être accepté enfin par les autres Dalton. Donc ça, c'est déjà le premier truc. Faut savoir aussi que dans Wanted Lucky Luke, à un moment, les filles et Lucky Luke se font attaquer par les Indiens. On le voit, tu sais, c'est comme dans les attaques classiques de caravane où ils font le cercle, enfin, etc. Et l'Indien qui les attaque, c'est Palomino. Alors Palomino, c'est pareil, il est allé chercher très loin, Mathieu Bonhomme, parce qu'il nous a ressorti un personnage qui vient de Canyon Apache. Canyon Apache, c'est un très vieux titre de Lucky Luke, qui doit dater des années 80 de tête. Et dans ce titre, Palomino était un enfant indien insupportable, qui était le fils de Patronymo, qui était l'antagoniste de l'album. Et en plus de ça, toujours en restant sur Canyon Apache, Lucky Luke nous ressort le colonel de la cavalerie, qu'on voit dans Wanted Lucky Luke, qui a vieilli lui aussi, mais qui apparaît aussi dans Canyon Apache, et qui voulait absolument tuer Patronymo, donc le père de Palomino.
Ouais, donc tu vois, il fait recouper.
Ouais, il fait recouper en fait son univers Lucky Luke beaucoup plus réaliste, beaucoup plus cowboy, beaucoup plus sombre, avec la série principale et les différents albums qui ont existé avant. Mais c'est pas tout. C'est pas tout parce que il est dans quand on voit Fil de Fer, alors pas Fil de Fer, mais son fils, le fils de Fil de Fer, qui lui est celui qui cherche à le tuer au début, Lucky Luke, et qui après réussit à le capturer les trois filles, etc. Et à un moment, il y a une des sœurs, la brune, qui confronte Lucky Luke dans ses contradictions, parce que le fils de Fil de Fer dit que Lucky Luke a tué son père, alors que Lucky Luke dit qu'il n'a jamais tué personne. Et là, on se dit, il y a un des documents, donc on a tendance à croire Lucky Luke, sauf que, pour la petite histoire, dans l'album Fil de Fer, qui est le 8e album de la série, qui est sorti il y a très longtemps, dans la première édition de cet album, Lucky Luke tue Fil de Fer. Il le tue vraiment, sauf que dans les éditions suivantes, ce meurtre...
La censure est passée par là.
La censure est passée par là, tout à fait, ça a été censuré, et en fait, il est juste blessé dans ses rééditions. Ce qui veut dire que Lucky Luke ne ment pas vraiment en disant qu'il n'a jamais tué personne, sauf que, effectivement, le fils de Fil de Fer a raison, parce que Lucky Luke a bien tué son père aussi. Donc là-dessus, Bonhomme a fait des recherches, c'est ouais, très pointu.
Ouais, il est vraiment pointu, quoi.
Ouais. Là-dessus, enfin, si tu connais pas l'histoire de Lucky Luke, si...
Mais la vraie question, moi, que j'ai là-dessus, c'est... Ok, Fil de Fer, il dit qu'il a tué son père, mais si... Lucky Luke a tué son père, Fil de Fer n'existe pas. Mais du coup, s'il n'a pas tué son père, Fil de Fer existe. Du coup...
N'importe quoi.
Sauf qu'il existe si le fils est né avant le meurtre.
Mais oui.
Oui, mais ça, on le sait pas.
Ah oui, mais on ne le sait pas. Mais étant donné que Palomino, qui était le fils de Patronimo, qui revient parce qu'il a grandi avec le vieux colonel qui a vieilli depuis Canyon Apache, peut-être que effectivement Fil de Fer est mort sans être mort.
Oui, voilà.
Oui, peut-être voilà, d'accord. Et là, on va retomber. Oui, je suis ton père, n'est-ce pas? Non, en fait, voilà, c'est la contradiction de l'univers BD. Bon, on n'a pas une contradiction près dans un univers aussi étendu et puis aussi ancien que Lucky Luke. Lucky Luke, c'est très vieux comme BD.
Donc, je suis assez d'accord, mais
c'est. Il peut y avoir des trucs qui coincent, quoi.
Je trouve que c'est super intéressant parce que tu relèves des trucs alors que les jeunes lecteurs ne connaîtront sans doute pas du tout. Moi, je t'avoue, je ne connaissais pas l'histoire du père de Fil de Fer.
T'es en train de te traiter de jeune lecteur ?
Non, parce que j'ai lu des Lucky Luke. Mais je pense avoir lu la version, probablement la réédition, parce que moi, je n'ai pas le souvenir que Lucky Luke tue.
Je dois t'avouer que je possède la réédition. Et la version originale où Lucky Luke tue Fil de Fer, j'ai trouvé ça sur Internet, vive Internet. Et je n'ai pas les moyens de m'acheter une édition originale de 8e album de Lucky Luke.
Du coup, si quelqu'un nous écoute et veut offrir une édition originale de Lucky Luke à Cyril, c'est
écoute,
avec plaisir.
Je prends, c'est avec plaisir. Vos éditions originales seront les bienvenues chez moi. mais c'est pas tout. En fait, Mathieu Bonhomme a encore poussé plus loin. Parce que, tu sais, sur l'affiche de Wanted Lucky Luke, où il est recherché avec ses 50 000 dollars de prime, on le voit avec une pâquerette dans la bouche. Au lieu d'avoir son petit brin d'herbe que tous les jeunes lecteurs connaissent parce qu'il a arrêté la clope. Et là, Mathieu Bonhomme est raccord avec ce qu'il a fait précédemment. Parce que dans l'album précédent, L'homme qui tue à Lucky Luke, Lucky Luke arrête de fumer parce qu'il n'arrive plus à trouver du tabac.
Ouais, c'est...
Et donc, tu vois, et dans l'album précédent, il a arrêté de fumer. Dans celui-là, tu vois qu'il est toujours accro à la clope parce qu'il est en train de se tirer dessus avec le fils de fer. Pas Gaston, hein, l'autre. Alors, Gaston de Fer, si, ça parlera que aux vieux.
Moi, j'ai pas compris.
Voilà, donc ça peut parler qu'aux vieux. C'était un vieil homme politique. Et donc voilà, donc le fils de fer. Et alors qu'il est en plein gunfight, il se tâte à ramasser la clope qu'il a laissé tomber. Enfin, pour moi, Mathieu Bonhomme est un ancien fumeur. Et il exorcise un petit peu ses envies par ses albums.
Du coup, on fera peut-être une réunion d'anciens fumeurs, qui sait, autour de Lucky Luke.
Écoute, on verra ça plus tard. Après, il y a encore d'autres choses, parce que dans l'album, il y a un album de Lucky Luke qui s'appelle La fiancée de Lucky Luke, où il escorte des femmes promises, tu sais, des promises de la côte est des États-Unis qui vont vers l'ouest pour se marier avec des cow-boys qu'elles n'ont jamais rencontrés. Donc là encore, on est raccord avec ce qui se passe dans Wanted Lucky Luke, avec ces filles justement fortes, ces trois sœurs qui sont des femmes fortes, qui ont leur propre caravane et qui ne cherchent pas du tout un mec. Et à côté de ça, dans les précédents albums, on avait ces femmes qui, justement, allaient à l'aventure dans le Grand Ouest pour se faire marier de force, parce qu'il fallait absolument être marié à l'époque. Donc là, on est dans un discours qui est totalement à l'opposé de ce qu'on vit, nous, au XXIe siècle, mais qui, au XIXe siècle, était tout à fait réaliste et réalisable. Et d'ailleurs, dans La fiancée Lucky Luke, Lucky Luke se fait déjà draguer par une certaine Jenny, une rouquine, et le but étant de le marier à cette Jenny pour qu'il devienne le marshal de la ville.
Exact, ouais.
Ouais, mais dans L'homme qui tue Lucky Luke, Lucky Luke devient shérif de la ville où il est. Donc là encore, tu vois, il y a quand même des allers-retours entre la série normale, ce qui s'est passé avant, et ce que Mathieu Bonhomme nous raconte. On arrive à avoir un univers cohérent.
Ouais, mais c'est assez intéressant parce qu'en plus, toutes ces anecdotes font lien avec la série originale, alors qu'on pourrait prendre clairement le Lucky Luke à part, même tu mets que c'est pas Lucky Luke, tu peux lire un western.
Ouais, tout fait. À fait, tu peux lire un western, sauf les voilà, dans le plus dans L'homme qui tue à Lucky Luke que dans Monty Lucky Luke, parce que dans Monty Lucky Luke, tu as cette cabale de brigands qui se montent contre lui, et bon, voilà, on peut ne pas trop comprendre pourquoi, si on n'a pas le background qu'il y a avant, mais L'homme qui tue à Lucky Luke, clairement, peut se lire tout seul. Et mis à part quelques petits détails, Wanted de Lucky Luke peut se lire tout seul aussi. T'as juste à savoir que oui, c'est un cowboy redresseur de tort.
Oui, j'ai encore, enfin, moi en tout cas, le fait de voir qu'il y a des références, on le sent, on le devine, et quand on les connaît, on les voit. Mais c'est pas gênant si on les a pas.
Toi, t'en avais pas lu, c'est ça ?
De Lucky Luke ?
Ouais.
J'ai dû en lire un il y a super longtemps, je m'en souviens vraiment pas, quoi.
T'as jamais lu Lucky Luke ?
Bah, j'ai dû en lire, en vrai je connais, mais je pense que je connais plus
Jolly Jumper que Lucky Luke.
Ah oh, oui, les Dalton.
Le Dalton.
Non mais c'est bien de savoir ça. Moi je trouve que c'est bien d'avoir un point d'entrée au personnage sans avoir besoin, tu vois, de te taper 80 ou 90 ans d'histoire.
Ouais, après moi je trouve que... Pardon.
Non, vas-y Margot, je t'en prie.
Je trouve que moi, mine de rien, ils peuvent très très bien se lire indépendamment, L'homme qui tue à Lucky Luke de Wanted, mais il y a quand même une suite, le truc justement de la cigarette et tout ça, j'ai l'impression d'être la seule à trouver qu'ils suivent.
Ah non, mais les deux, oui, L'homme qui tue à Lucky Luke et Wanted Lucky Luke,
oui.
Moi, ils ont un lien direct.
C'est oui, bah, moi aussi, pour moi aussi. Mais c'est pas gênant si on les lit séparément. Hein.
Non, tout à fait. Moi, je disais de les lire séparément, Wanted et... L'homme qui tue à Lucky Luke, de la série classique des Lucky Luke, des E-Town, un cowboy à Paris, un cowboy dans le coton, etc. Tout ça, c'est pour moi, ça pourrait être deux univers totalement différents, au même titre, tu vois, qu'un Batman où tu as la série Batman et la série Detective Comics, par exemple.
Ouais, sauf que là, c'est un peu la même chose. Tu peux lire Batman tout d'un côté et Detective Comics de l'autre. Tu peux lire la série classique Lucky Luke et les Lucky Luke de Mathieu Bonhomme de l'autre. Sauf que même si ça se comprend chaque série de son côté, c'est quand même interconnecté. Il y a des petites références. Alors là où on a les références à la série classique dans les bouquins de Mathieu Bonhomme, je trouve dommage que dans la série classique, justement, il ne fasse pas de petites références à ces petits hors-série.
Je suis d'accord.
Peut-être que c'est une sorte de cahier des charges, un peu comme, je dirais pas Tintin parce qu'il n'y en a plus, mais comme Astérix, tu vois. Astérix, il faut qu'il y ait les Gaulois, qu'on tape du Romain, qu'il y ait un grand méchant, qu'il y ait les pirates, qu'il y ait les machins. Peut-être que dans les Lucky Luke classiques, c'est un peu le même schéma narratif avec le cow-boy, la péripétie, le village, le machin. Et du coup... ils peuvent peut-être pas intégrer... Enfin, l'un est possible, Mathieu Bonhomme peut intégrer du classique, mais peut-être que dans l'autre sens, c'est un peu plus compliqué.
Je sais pas. Après, c'est aussi peut-être une question de public, les Lucky Luke de Mathieu Bonhomme, même s'ils peuvent être lus par des enfants, il n'y a pas de problème, enfin, pas trop petits non plus, mais même s'ils peuvent être lus par des enfants, s'adresse quand même beaucoup plus à un public adulte qui aura un autre regard sur l'histoire. Alors que la série classique de Lucky Luke, comme on en a parlé un peu avant, bon, voilà, c'est vraiment orienté enfant, quoi.
Je pense aussi, ouais. Mais du coup, ça serait intéressant si Mathieu Bonhomme nous écoute et qu'il veut venir en discuter un petit peu. Je le recevrai avec plaisir. Et si vous êtes dispo, on le recevra avec plaisir pour échanger autour de ça.
Écoute, moi, ça me ferait très très plaisir aussi.
Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter sur ces titres dont on a parlé dans ce petit podcast. Rien pour vous. Du coup, je vous souhaite... une bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, un bon café, ce que vous voulez en nous écoutant. Merci à vous pour votre temps. Comme d'habitude, nous, on se retrouve sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram, les chroniques sur le blog le lundi, mardi, mercredi, vendredi et dimanche. Pour tout le reste, les podcasts sur toutes les plateformes. Et à très bientôt! Salut, salut.
Salut, à bientôt.
Salut.